أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم. Bienvenue. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid-din. C'est-à-dire, celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. La science de la religion, bien évidemment, s'apprend avec chaîne de transmission auprès des gens de la connaissance dignes de confiance. Et il est important de mettre la bonne intention par recherche de l'agrément de Dieu. Il n'y a pas de récompense sans la bonne intention. Donc nous avions parlé la dernière fois des règles d'interprétation du Coran et du Hadith. Donc on a vu le verset qui montre qu'il y a des ayats explicites qui sont la base du livre et des ayats non explicites, mutashabihat, et que les gens qui ont de l'égarement dans leur cœur, ils vont suivre ce qui n'est pas explicite afin d'égarer les gens en donnant des mauvaises interprétations. Et que par conséquent, les ayats mutashabihah non explicites, les savants sunnites sont unanimes leur donner un sens, qu'il faut leur donner un sens conforme aux ayats explicites qui sont la base du livre. Muhkamat. Parce que dans le Coran, il n'y a pas de contradiction. Et donner une interprétation qui mène à la contradiction est clairement interdite et non acceptée. Et on a vu que il y a deux voies principales des savants sunnites où parler de manière générale et dire ce verset ou ce passage dans le Coran a un sens, donc si ça parle au sujet de Dieu, c'est un sens digne de Dieu et conforme aux autres versets tels que laïsa kamithlihi shay, qui signifie rien n'est tel que lui, ou alam yakul lahu kufuwan ahad, il n'a aucun équivalent. Donc, dans les deux voies qu'ont suivi les savants, dans tous les cas, ils disent c'est un sens digne de Dieu. Donc, un savant, il a montré comment il faisait à l'époque, même pour traduire en perse, il gardait le mot en arabe. Il gardait le mot en arabe. Ils disent, par exemple, istawa selon ce qui est digne de Dieu. Et que ce n'est pas le contact, la position assise, l'établissement, donc le fait d'occuper un espace, tout ça, ce n'est pas digne de Dieu. Donc il reste de manière générale sans préciser de sens. Mais il nie au sujet de Dieu, c'est ça qui est important, il nie au sujet de Dieu la forme, la quantité, la localisation, tout ce qui est des attributs des créatures. Et il y en a, beaucoup de savants, ils précisent un sens selon la langue arabe, qui fait partie parmi les sens dignes de Dieu. Et c'est pour cela, par exemple, pour Istawa, on a vu qu'ils ont dit « Dieu domine le trône ». Beaucoup de savants, comme le Bayhaqi et d'autres, ils ont dit « Dieu domine le trône ». Et pourquoi Dieu nous cite cela? Pour montrer, donc c'est ça fait partie de la rhétorique. Donc citer le plus pour inclure le moi. Ça veut dire, étant donné que Dieu domine le trône le plus grand des corps que Dieu a créés, à plus forte raison, il domine les créatures plus petites. Donc c'est ce qu'ils ont dit les grands savants. Et ça, comme on l'a vu certains, ils disent c'est Istawa selon ce qui est digne de lui. Et ils disent le comment est inconcevable, on ne dit pas comment. C'est ça qui est confirmé, que ce soit de l'imam Malik, de Umm Salama, l'épouse du prophète, comme le cite As-Suyuti dans son livre Al-Itran, fi Ulum al-Qur'an. Tous ceux qui citent, il en cite plusieurs, ils disent le comment au sujet de Dieu c'est impossible. Comment Dieu en est exempt. Donc tous les savants sunnites, ils sont unanimes sur cela. Donc voilà les deux voies qu'ont suivi les grands savants sunnites. Alors, les gens des trois premiers siècles, qu'on dit As-Salaf, les prédécesseurs, donc ici on parle des... Du vrai sens, pas du sens utilisé par les extrémistes. Ils se font appeler salafites alors que eux, c'est le nom de la secte, c'est le wahhabisme, qui est né il y a un peu plus de 250 ans. Ceux-là, ils suivent leurs prédécesseurs qui assimilent Dieu à ses créatures, al-mushabbiha. Et on a vu les savants sunnites leur ont répliqué. Et donc, beaucoup de savants du salaf, ils l'interprétaient de manière générale, sans préciser de sens. Et des fois, ils précisaient un sens. Et beaucoup de salaf, des savants du khalaf, ils précisaient des sens. Pourquoi? Parce que l'époque a changé, et il y a eu beaucoup de sectes égarées qui s'est apparues après. Donc, ils ont eu besoin de préciser des sens pour protéger les gens. Les savants, ils sont intelligents, ils agissent aussi selon, ils donnent les détails selon les époques. Comme Abu Hanifa, le grand savant sunnite très connu, donc quand il donnait des détails sur la croyance, etc., des précisions, tous ces détails-là, c'est ces explications détaillées, donc ces précisions, ils lui ont dit, mais tu dis des, certains ils lui ont dit, pourquoi tu donnes des détails que les gens, les prédécesseurs, donc les gens d'avant, les compagnons, les ont pas cités. Donc qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, ce n'est pas, donc dans le sens que ils n'ont pas cité cela, c'est pas parce qu'ils savaient pas. Mais il a dit, mais leur exemple, c'est l'exemple de gens qu'il n'y a pas devant eux qui vont aller, qui les combattent, ils n'ont pas eu besoin de sortir les armes. Et notre exemple, il a dit, c'est l'exemple de gens qui ont devant eux qui les combattent, ils ont eu besoin de sortir les armes. C'est ça, il veut dire, c'est pas parce qu'il connaissait pas ces détails-là, il le maîtrisait pas, mais il n'a pas eu besoin de cela parce qu'il n'y a pas eu tant de sectes apparues, des gens qui contredisent. Donc ils n'ont pas eu besoin de détailler. Et nous, on a eu besoin de détailler parce que les sectes se sont propagées, ceux qui contredisent, Mu'tazila, etc., Khawarij, Mushabbiha. Bien que le compagnon, des fois, Sayyidina Ali l'a envoyé Abdullah ibn Abbas donc débattre avec le Khawarij et leur répliquer, et ça, beaucoup d'entre eux ils sont revenus de leur égarement. Donc voilà le détail très important sur ce sujet. Et on est arrivé, on a expliqué Ar-Rahman wa al-Arsh istawa, c'est à dire Dieu domine le trône par sa puissance. Et bien sûr, Dieu n'a pas besoin du trône. Dieu a créé le trône, il existe avant les créatures. Donc c'est un blasphème de dire, comme disent les gens du livre, de dire que Dieu est sur le trône, et comme disent ceux qui assimilent Dieu à ses créatures, les wahhabis. la réplique à tous ces gens-là, que ce soit des gens du livre ou les wahhabis, on leur dit simplement, donc, et ça c'est, ça marche, on l'a testé plusieurs fois, qui a créé le trône? Qui a créé le ciel? Parce que les deux, ils croient la même chose. Que ce soit wahhabia ou les gens du livre. On leur dit, qui a créé le trône? Qui a créé le ciel? Qui a créé l'endroit? Rien qu'en posant cette question, ils sont bloqués. L'issue, elle est fermée. Donc, ils sont obligés de dire, c'est Dieu. Pourquoi on pose cette question? Parce qu'on sait qui ce qu'ils vont répondre, qu'ils vont dire, parce que dans l'islam, on l'a vu, quelqu'un qu'on sait qu'il va répondre faux, on ne doit pas lui poser la question. Mais quelqu'un, donc par exemple, ce genre de question, on ne peut pas le poser à un athée. Un athée, c'est une autre manière de répliquer. Donc là, on sait que nécessairement, ils vont dire c'est Dieu. Donc on leur dit, donc vous dites que Dieu a créé le trône, donc le trône n'existait pas. Donc Dieu existe avant le trône, sans le trône. Et après qu'il a créé le trône, il n'a pas besoin du trône. Il ne change pas. Pareil pour le ciel, pour l'endroit. Voilà une réplique simple, facile. Et on l'a dit l'autre fois aussi que il n'y a pas d'excuse. Quelqu'un qui attribue à Dieu l'espace, le temps, il n'y a aucune excuse. Même s'il a lu les mauvaises traductions du Coran, ou il a été induit en erreur par quelqu'un, il n'y a pas d'excuse, Dieu t'a donné la raison. Donc tu dois suivre les preuves rationnelles. C'est important. Et c'est, on a vu le verset. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. C'est-à-dire, ils ont dit, si nous avions écouté ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. Il faut raisonner. Quelqu'un qui n'a pas la raison dans l'islam, il va au paradis. Quelqu'un qui a été fou toute sa vie. Donc, Dieu t'a donné la raison. Donc il faut suivre les règles de la raison. Et donc après cela, il y a d'autres versets qu'on a vus. Donc il y a parmi les figures de style employées dans le Coran, parce qu'on a vu c'est le plus haut niveau de la rhétorique, le Coran. Donc c'est pas une simple traduction ou une application qu'on va on va chercher l'essence comme ça à droite à gauche. C'est une chose très très importante. On la demande de gens de confiance. Il s'agit de l'au-delà. Tu vas rendre des comptes. Donc il y a parmi les figures de style, en fait le Coran, on voit les figures de style qui existent dans la langue arabe. C'est pour cela, c'était facile pour eux, les compagnons, de comprendre ces figures de style. Parmi les figures de style, il y a attribuer la créature à Dieu pour montrer son honneur. Comme on dit la mosquée Baytullah. On ne dit pas un endroit où ils adorent autre que Dieu, on ne dit pas Baytullah. Donc, maison honorée par Dieu. Naqatallahi wa suqiyaha. La chamelle honorée par Dieu. Donc, la chamelle que le prophète Saleh a sorti comme miracle pour son peuple. Et aussi pour, c'est employé cette figure de style pour l'âme de Isa et l'âme de Adam. Allah Ta'ala dit, فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. Nous avons fait insuffler dans son corps l'âme que nous avons créée, honorée. Donc, croire que les créatures sont une partie de Dieu, c'est du shirk. Et d'ailleurs, Allah Ta'ala dit dans Sourate Az-Zukhruf, وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. C'est-à-dire, ces mécréants, ils ont attribué à Dieu des parties. Ils ont dit que c'est parmi ces créatures, ils sont une partie de lui. Donc ici, l'attribution de la créature à Dieu, c'est pas pour le, dans le sens de la partie, mais dans le sens de l'honneur. Donc ça veut dire que cette créature, elle est honorée par Dieu. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. Déjà, une figure ici, une forme dans la langue, c'est le pluriel de glorification. Nous, de glorification ici. C'est plat pour la multiplicité. Ça désigne Dieu ici. En arabe, c'est le donc pronom donc le pronom rattaché. فَنَفَخْنَا. Ici, nous avons fait insuffler. Ici, ça désigne Dieu, mais pour la glorification de Dieu. Parce que certains se posent des questions, pourquoi il y a le « nous » alors Dieu, il est unique. C'est utilisé dans la langue. Le roi est dit « nous avons fait cela, nous avons ordonné cela, etc. » Donc, nous avons fait insuffler dans son corps l'âme que, ça veut dire Dieu a ordonné à l'ange. Ce verset signifie que Allah a ordonné à l'ange Jibril d'insuffler dans le corps de Mariam l'âme de Isa qui est une âme honorée. Donc il y a des âmes honorées et de mauvaises âmes, des âmes malignes. Donc les âmes des prophètes font partie de la première sorte des âmes honorées. Quant au fait que Allah s'attribue les âmes de Isa et de Adam exprimées par le pronom possessif na dans mirruhina, ceci exprime la marque d'honneur. On dit la même chose à propos du verset Antahira baytiya lit-ta'ifin wal-'akifin. Ici aussi baytiya renvoie au sens de l'honneur. La Kaaba est un endroit honoré selon le jugement de Allah. Quant à sa parole Ta'ala, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Ils craignent Allah, lui qui les domine par sa toute-puissance. Fawq ici fawqiyat al-qahr. Il disait savant, c'est la domination. En français, on peut, c'est déjà, c'est un sens proche, c'est utilisé. On dit, par exemple, le roi est au-dessus du ministre dans la hiérarchie, au-dessus. Ça ne veut pas dire que physiquement il est au-dessus de lui. Donc, il se peut que voilà, il y a le roi, il est physiquement en bas, et puis les gardes, ils sont en haut. Donc ce qui fait, qui implique une supériorité dans la hiérarchie ou dans le mérite, c'est pas l'espace. C'est pas la supériorité spatiale. Donc même en français, au-dessus, c'est utilisé dans la hiérarchie, au-dessus, pour dire un niveau hiérarchique. Et pas forcément à un niveau physique. Mais yakhafuna rabbahum min fawqihim, c'est-à-dire les savants disent fawqiyatu qahr, c'est-à-dire ils dominent, donc supériorité de domination. Donc voilà des exemples pour qui vont tous dans les règles qu'on a dit, interprétées selon ce qui donc de manière générale, ce qui correspond au contexte. Toujours, on interprète, c'est... Donc ça, c'est dans tous les domaines. On va interpréter l'expression selon le contexte. Si c'est une expression, bien sûr, qui admet l'interprétation. Mais dans le Coran et le Hadith, il y a une règle chez les savants. Il y a une règle importante. C'est que... un texte religieux est forcément, donc il a un texte religieux confirmé, et forcément il a un sens correct. Donc un texte religieux confirmé, le Coran, c'est confirmé, et un hadith, il a forcément un sens, un hadith confirmé, il a un sens correct. Ou c'est le premier sens, ou c'est un sens second. Si le sens apparent il contredit la raison ou il contredit à notre texte, c'est nécessairement qu'il est interprété. Il y a une règle chez tous les savants des fondements de la religion. Il n'y a aucun texte religieux confirmé qui a un sens qui contredit la raison, qui contredit un texte confirmé, et qu'il n'admet pas l'interprétation. Ça n'existe pas. Donc forcément, un texte religieux, il est, c'est le Coran, il est correct, c'est sûr. Si le premier sens apparent contredit la raison ou un autre texte confirmé, et bien ce premier sens, nécessairement, il n'est pas pris en compte. Et pour le hadith aussi, si un hadith, bon pour le Coran c'est clair, pour le hadith, si le premier sens contredit la raison, nécessairement il est interprété. Si il peut pas être interprété, c'est que c'est un faux hadith. Ça c'est aussi, c'est unanime, c'est tous les spécialistes, les grands savants du hadith. Pas des gens qui lisent dans des livres et regardent sur des logiciels. Donc c'est vrai savants comme Bukhari, Shafi'i Malik, Abu Hanif, et maîtriser la science du hadith. Muslim, etc. Nawawi. Parce que de nos jours, les gens, ils disent, un tel, ils citent un qui faisait que lire le livre. Et maintenant, cette secte-là, ces gens-là, c'est des logiciels qu'ils ont commandés à des ingénieurs informatiques. C'est pas parce qu'on est ingénieur informatique que on fait des bases de données qu'on devient un savant du hadith. Donc c'est pas comme ça du tout. Et il y a des gens comme ça maintenant. Hop, ils consultent un logiciel très connu, à savoir Google. Google c'est un logiciel en fait en ligne. Et hop, ils font une recherche et ils viennent et donc discuter et débattre parce qu'il a fait une recherche sur Google. Donc c'est là la gravité de la situation que le prophète nous a décrit, l'ignorance de la science de la religion, et les gens ils sont ignorants, orgueilleux, et ils n'acceptent pas la vérité, et c'est là, ça devient difficile, et c'est pour cela, le prophète, alayhi salam, il a dit, une parole très importante, il a dit, يأتي زمان المتمسك بمثل ما أنتم عليه أجر خمسين. Donc il leur a dit, il y a un temps qui va venir, celui qui s'attache à ce à quoi vous vous attachez, il aura la récompense de 50. قالوا منا أو منهم يا رسول الله قال بل منكم. Ils ont dit, 50 de parmi eux ou de parmi nous? Il a dit le prophète, 50 de parmi vous. Le prophète, alayhi salam, il parle d'une chose spécifique, pas dans tous les sujets. Dans le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal, il a dit, la personne aura la récompense de 50 compagnons. La récompense de 50 compagnons dans le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal. Pourquoi? Parce que la situation telle qu'on l'a décrite. Les gens, ils sont ignorants, ils pensent qu'ils connaissent. Il appelle ça, le savant, Jahl Murakkab. C'est-à-dire ignorance multicouche, si on peut dire. Il est ignorant, il pense connaître. Il ne sait pas qu'il est ignorant. Parce qu'un ignorant, il sait qu'il est ignorant, ça c'est facile, ils ont dit les savants. Ça, indiquez-lui. Ils ont dit, mais un ignorant, il pense qu'il connaît, c'est un shaitan, évitez-le. C'est là la situation. Les gens, beaucoup ils sont ignorants, ils pensent connaître. Et aussi, ils suivent aveuglément les gens. Ils pensent qu'un tel, il a un titre d'imam, il a 1 million de vues sur YouTube ou sur Facebook, ça y est, c'est indiscutable. Lui, c'est l'imam. Et tu vois des gens comme ça, ils disent c'est un savant parce qu'il a plein de vues sur YouTube. Donc, la religion, comme il a dit le prophète, elle a commencé étrange, elle va redevenir étrange. Donc elle a commencé étrange, les gens ils disaient mais c'est quoi que tu dis, etc. Les mécréants. Elle va redevenir étrange, il a dit. C'est notre situation. Il a dit quoi? Fatouba lil ghuraba. Il a dit bonheur aux étrangers, donc on peut dire. Ils l'ont dit, c'est qui? Il a dit alladhina yuslihuna ma afsada an-nas min sunnati. Ceux qui corrigent ce que les gens ils ont corrompu de ma voix. Sunnati ici, c'est pas s'habiller sunna, c'est la voix du prophète. Et dans le hadith, il dit "Mutamassiku bi sunnati 'inda fasadi ummati ajru 50, ajru shahid." Celui qui s'attache à ma voix, quand il y aura la corruption dans ma communauté, il aura la récompense d'un martyr. Donc, c'est cette époque-là. Donc, c'est pour cela que c'est important de maîtriser ces sujets-là, de propager ces sujets. Donc, correct, avec la bonne intention, on a une grande, grande récompense. Il dit la récompense d'un martyr, il a dit le prophète. Donc, qui est une grande récompense. Donc, alors, concernant le sens de la parole de Allah qui concerne le blâme de fait à Iblis. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday. Qui signifie, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner pour celui que j'ai créé et j'ai honoré? Bi yaday ici marquait l'honneur. Surat Sad. Il est permis de dire que biyadai signifie ici l'honneur et la préservation. Et cela ne veut pas dire la main, car Dieu est exempt de cela. Donc il y a des expressions, par exemple aussi, en français on dit quelqu'un, il a la main mise sur tel secteur. Ça ne veut pas dire main ici, si tu veux traduire. Ou je te donne un coup de main. Si tu traduis en arabe mot à mot, ça ne marchera pas. Donc même en français, il y a des expressions que tu ne peux pas traduire mot à mot. L'arabe, c'est encore plus riche. Donc ça, c'est des exemples pour montrer la stupidité de ces gens-là qui interprètent mal le Coran. Ça veut dire ils sont ignorants de la religion, ils ne raisonnent pas, ils sont ignorants dans la rhétorique, la linguistique. Donc, comme en arabe, on dit « charibtu min al-ayn ». On va pas traduire « j'ai bu de l'œil ».« Ayn » ici ne veut pas dire « œil », ça veut dire « source ». On dit « atashar su'aynu ». On va pas traduire un tel, il est venu son œil. Aïnou, ici lui-même. Il s'est utilisé au sujet de Dieu aussi, dans un verset. Tadjeli bi ayounina, sur le bateau de Noé. Noé. Tadjeli bi ayounina, ça veut pas dire que Dieu a des yeux, ça veut dire sous notre préservation. Comme on dit garde un œil sur un tel ou jette un œil. Ça ne veut pas dire jette un œil. Donc, et des gens, ils connaissent ni la langue, ni la rhétorique, ni la religion en réalité, ces gens-là. On voit qu'ils sont loin. Ceux qui traduisent mot à mot et qui gardent les gens. Donc, comme on l'a dit, on ne dit pas j'ai lu dans le Coran, et on cite une phrase en français. On dit j'ai lu un auteur qui a dit, qui prétend donner un sens de tel verset. Donc, faire attention. Il y a des gens qui te disent, oui, moi j'ai lu dans le Coran. Mais le Coran, c'est en arabe. Donc, si tu rapportes des paroles, des traductions, tu dis, l'auteur du livre, il prétend que cette phrase ait le sens où il dit telle chose, en prétendant que c'est le sens de tel verset. Aussi, un autre exemple. Donc, on cite un autre exemple. وجاء ربك والملك صفا صفا. Donc ici جاء ربك, là aussi c'est une autre figure du style, les manifestations de la puissance de ton Seigneur apparaîtront. C'est ça le sens. Donc on appelle les figures de style sont figurées par omission. Majaz ou hadaf. Et ça, c'est utilisé en français aussi. On dit le roi, il a construit la ville. Mais est-ce que le roi, c'est lui le maçon? Non. On a attribué l'acte à celui qui l'a ordonné. C'est-à-dire les sujets du roi, donc on a omis quelque chose. On l'a attribué directement au roi. Donc c'est utilisé aussi dans d'autres domaines aussi. Une figure proche. Donc c'est utilisé dans plusieurs situations, cette figure de style en fait. Des fois il crie des gens manifestant sur un tel injuste président, ils disent un tel assassin. Mais réellement lui, il a jamais assassiné. Mais le fait que c'était lui le chef qui ordonnait telle guerre, les gens écrivent des slogans très connus, un tel assassin, criminel ou des choses comme ça. Donc, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, c'est le même sens qui va venir aussi dans un autre hadith qu'on va voir. Et c'est utilisé dans un autre hadith très connu. Donc ici, car des événements imminents seront manifestés au jour dernier. Et cela ne signifie pas que Dieu se déplace. Et celui qui attribue à Dieu le mouvement ou l'immobilité, il devient non-croyant, c'est du shirk. Attribuer à Dieu la forme, la quantité, ça implique, donc celui qui est qualifié de forme, de quantité, ça implique que c'est une créature. Donc il y a, vraiment là aussi, il y a une preuve très connue sur le... Donc vous pouvez regarder un hadith très connu et qui montre cela et qui est une réplique aussi à ces gens-là. Parce que le hadith, il est très clair qu'on peut pas employer, prendre le sens apparent dans certains cas. Sinon, ça serait un blasphème. Donc le hadith très connu, Allah, c'est un hadith qudsi en fait. Donc c'est un hadith Qudsi, vous pouvez écouter, il y a l'audio aussi. Donc sans figurer dans le hadith et le Coran. Donc ce hadith là, donc Muslim le rapporte avec chaîne de transmission jusqu'à Abu Huraira. Donc c'est un hadith Qudsi, ça veut dire le prophète il dit que Allah Ta'ala dit. Ça c'est le genre de hadith qu'on dit hadith Qudsi. إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلان مريض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. Donc ce hadith est très clair. Il est cité dans le hadith que Allah subhanahu wa ta'ala dit au jour dernier au fils de Adam مرضت. Littéralement, maridtu, en arabe, je suis tombé malade. Mais, dans le même hadith, Dieu explique ça veut dire quoi, maridtu. Donc, c'est Allah qui explique le vrai sens de la première phrase, à savoir, mon esclave est tombé malade. Donc, c'est un hadith sahih. C'est un hadith sahih. L'imam Nawawi a fait le commentaire de Sahih Muslim, explique ce hadith. Il dit, que dans l'expression littérale du hadith, Allah s'est attribué la maladie à lui. Et ce qui visait, c'est l'esclave, pas honneur à l'esclave. C'est-à-dire, c'est un esclave honoré de Dieu. Majaz ou hadf. Donc ça, c'est une preuve incontestable. On va pas dire, ah non, on prend le premier sens, et on va, on peut pas prendre le premier sens, c'est impossible. C'est-à-dire, c'est impossible ce sens au sujet de Dieu. Donc il y a ça, et celle qu'on vient de voir, le verset, et le hadith Nuzul aussi. C'est-à-dire l'ange de Dieu descend, ou la miséricorde de Dieu descend. Madaz ou hadith. Donc vous voyez, c'est employé. Donc c'est là le danger, c'est pour cela on a vu dans le précédent cours, le Coran imma hujjatul laka alayka. Le Coran est une preuve ou pour toi ou contre toi. Et ceux dont le cœur comporte un égarement, ils vont suivre ce qui n'est pas explicite pour égarer les gens. Donc vous voyez pourquoi. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit à Aïcha, إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهم فاحذروهم فأولئك الذين سماهم الله. Il a dit, si vous voyez ceux qui suivent ce qui n'est pas explicite, évitez-les, prenez garde contre eux. C'est cela que Dieu a cité. Et ces gens-là, les Wahhabis, ils font cela. Ils citent tous ces hadiths-là, et le hadith de la femme esclave, il te dit que Dieu, il a haut, il descend, il monte, il a un pied, qui met en enfer, etc. Il parle d'un homme au final. D'une créature. Donc, vous voyez le danger. Mais ils sont aveuglés. Dieu qui veut, égare qui veut. Donc vous voyez les preuves donc claires. Et dans le hadith il est long, hein. Il y a pas, là, dans la suite, il y a Ibn Adam istat'amtuka falam tut'imni. قال يا رب كيف وكيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن استطعمك عبد فلان فلم تطعمه. C'est utilisé pour la nourriture, pour la boisson aussi. Et après, c'est il y a aussi استطعمتك. Pareil, استطعمتك littéralement, je t'ai demandé à manger et tu n'as littéralement la phrase je t'ai demandé à manger. Et tu m'as pas donné à manger. Et c'est expliqué, c'est mon esclave un tel, il t'a demandé à manger, tu lui as pas donné à manger. Et il explique dans la suite, parce que dans la première partie, il dit la wajadtani indahu. Littéralement, si tu l'aurais visité, tu m'aurais trouvé auprès de lui. Et il explique dans la deuxième partie, dans la suite du hadith, Dieu explique. La wajadtani indahu, ça veut dire tu aurais trouvé la récompense de cela. Ma récompense, tu aurais trouvé ma récompense. Donc vous voyez l'importance de la langue, de l'expression. Et le prophète nous dit Aktharu khatay ibn Adam al-lisani, la plupart des péchés de fils de Adam proviennent de sa langue. La religion insiste sur le fait de savoir s'exprimer, de bien comprendre. Ça, c'est des choses importantes dans la religion. C'est pour ça qu'ils étaient forts dans la linguistique, la rhétorique, les savants musulmans. Et les compagnons aussi maîtrisaient la langue arabe. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc ça, c'est dans le fameux Sahih Muslim. Donc ça, vous pouvez relire. Donc c'est l'article sans figurer dans le hadith et le Coran. Donc vous voyez, alhamdoulilah, nous on suit les grands savants sunnites. On suit donc la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Et celui qui ne suit pas ces règles-là, il s'égare, il va attribuer à des dieux ce qui n'est pas digne de lui. Donc, et aussi, un autre exemple, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Et si, certes, Allah sait tout de vous où que vous soyez.
On ne dit pas Dieu. Certains disent Dieu est partout. On ne dit pas ça. On dit Dieu, où que tu sois, Dieu le sait.
Donc ici, ça veut dire Dieu sait tout de toi. Mais ne veut pas dire Dieu est partout par lui-même, comme l'air. Non. Ça, c'est pas digne de Dieu. On rappelle la règle, la croyance musulmane, c'est que tu reconnais tu es incapable d'atteindre la réalité de Dieu. Comme il a dit lui-même Abu Bakr, comme c'est dit dans le Coran, « وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا » Les créatures ne cernent pas la réalité de Dieu. C'est ça la foi, c'est que tu reconnais que tu es incapable d'atteindre la réalité de Dieu. C'est ça la foi. Connaître Dieu, c'est connaître les attributs dignes de Dieu, l'exempter de ce qui n'est pas digne de lui, et savoir ce qui est possible à son sujet, comme créer une chose ou ne pas la créer. Ça, cette phrase, c'est enseignée donc aux débutants. Dans les pays musulmans, c'est enseigné aux débutants. Donc, voilà, donc comme j'ai dit l'autre fois, j'ai un livre là avec moi. Quelqu'un qui est décédé, c'était un Tunisien. Livre école primaire aux enfants, avant, en Tunisie. Et c'est la même chose aussi au Moyen-Orient. Tout le Maghreb, c'était presque la même chose, l'enseignement. C'est les colonisateurs qui ont arrêté cet enseignement. Ils enseignent aux enfants ce que je viens de dire. Connaître Dieu, c'est connaître donc ce qui est obligatoire à son sujet, la puissance, la volonté, la science, l'exempter, ce qui n'est pas digne de lui, et savoir ce qui est possible à son sujet, comme créer une chose ou ne pas la créer. Dieu n'est pas obligé de donner à l'être humain ce qui est le mieux. Il donne ce qu'il veut, il prive ce qu'il veut. Donc voilà, j'ai dans le livre dans la main et je regarde. Ils disent « Ma ma'na l'iman billahi tafsila » Ça veut dire quoi ?« Croire en Dieu en détail »« Ma'nahu anna Allah mawsoufun bil wujudi wal qidami wal baqai » والمخالفة للحوادث والقيام بنفسه والوحدانية والقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام وأنه قادر مريد عالم حي سميع بصير متكلم. C'est-à-dire croire que Allah existe, qu'il n'a pas de début, qu'il n'a pas de fin, qu'il n'a pas de ressemblance aux créatures, qui n'a besoin de rien, qui al-qiyam bin-nafs, il est unique, il est tout puissant, il a la volonté, la science, la vie, l'ouïe, la vue, la parole, et qu'il est donc il rajoute d'autres détails en fait, qu'il est vivant, qu'il entend, qu'il voit et qu'il parle. Donc ça, c'était enseigné. Donc voilà. Donc je le garde sur le bureau, très intéressant, qui montre comment cet héritage sunnite est enseigné dans les pays musulmans. Et que les ennemis de l'islam, ils ont arrêté cela, après ils ont propagé, comme il a dit, MBS, on a propagé donc le wahhabisme à la demande des occidentaux. Donc ça, vous pouvez trouver l'article, c'était Washington Post qui l'a dit, puis c'était relayé. Il dit clairement, on a propagé le wahhabisme à la demande des occidentaux. Parce que les wahhabites, c'est utilisé, comme on le voit, tuer des musulmans. Donc après, ils leur donnent des noms, Daesh, Qaïda, tout ça, c'est des noms, c'est du marketing. Mais les livres qu'on leur donne, c'est les wahhabites. Et ils leur font la publication. Ils font la publication... Donc, il les aide à se faire connaître. Donc, vous voyez, notre force, c'est de connaître, maîtriser notre religion. Ça, c'est important. Parce qu'il y a des gens, ils sont partis victimes. Donc, bien sûr, c'est Dieu qui guide qui veut et garde qui veut. Mais nous, on fait les causes. On connaît pas l'avenir, on fait les causes. Donc, les causes, c'est apprendre, maîtriser la religion, essayer de propager. Comme le prophète, il a essayé, il a propagé, mais c'est pas tout le monde qui a suivi. Nous, on fait les causes, bien sûr, selon ce que Dieu a facilité. C'est Dieu qui facilite, comme l'a dit le prophète, agissez, chacun, il va agir selon ce que Dieu lui a prédestiné. Donc, aussi, donc, quant à sa parole, Ta'ala, là aussi, c'est une preuve, parce que pour le hadith Maridtu, je l'ai cité parce que ces gens-là, donc ils vont pas oser dire que Dieu tombe malade. Et là, ils vont dire, ok, là, il faut interpréter. Donc, ils vont reconnaître que l'interprétation, dans certains cas, elle est nécessaire. Là aussi, dans ce verset, وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. Ici, ننسى. Le premier sens de nansa, c'est oublier. Dans un autre verset, la yadullu rabbi wa la yansa. Sayyidina Moussa, il répond à Pharaon que Dieu n'oublie pas. Mais ici, Allah Ta'ala dit nansakum. Ça veut pas dire on vous oublie. Dieu n'oublie pas. Ils ont dit les savants, aytaraknakum min rahmatina. Elle exprime le reproche et signifie vous êtes maintenant privé de notre miséricorde. Comme vous avez délaissé la croyance en Allah dans ce bas monde. Comme vous avez délaissé la croyance dans ce bas monde. Donc c'est dans ce sens-là. Comme vous avez délaissé la croyance en Dieu, Dieu donc vous prive de sa miséricorde dans l'au-delà. Donc cela ne signifie pas que Dieu oublie. En effet, Dieu sait toutes choses avant qu'elles n'arrivent. Dieu ne change pas. Ne change pas, comme on dit dans les pays musulmans, Subhanallah yughayyir wa la yataghayyir. Donc, de même, la parole de Allah Ta'ala, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalam ma ba'udah. Donc, le sens du verset que Allah ne dédaisse pas de faire éclater la vérité par pudeur, comme le feraient les êtres humains. C'est-à-dire que Allah ne délaisse pas de faire éclater la vérité, il ne la délaisse pas par timidité ou par honte comme le font les créatures, c'est une chose impossible s'agissant de Allah. Ainsi, il est interdit de nommer Allah al-Mustahi, le timide. Donc, faites attention, aussi ceux qui traduisent les noms, aux attributs à Dieu, des choses qui ne sont pas dignes de lui. Donc, il y a des, donc il faut voir les bonnes donc explications par transmission pour les noms de Dieu. Et on peut pas inventer des noms à Dieu. Par exemple, là, c'est dit, on peut pas dire que Dieu c'est Al-Mustahi, le timide. Donc, on n'invente pas, comme certains, les philosophes, ils disent Dieu c'est le moteur, ou c'est la plume créatrice, il y en a un, c'est un leader de l'extrémisme, utilisé par les Anglais pour faire des attentats en Égypte, comme le wahhabisme, ça a été utilisé par les Anglais pour massacrer les musulmans. Donc c'était fait contre l'Empire ottoman. Et c'est utilisé par ces mêmes personnes, bon, les Anglais, les Américains maintenant, parce que de toute façon les États-Unis c'est une ancienne colonie anglaise. Et c'est utilisé par ces mêmes personnes pour massacrer les musulmans. Ils viennent s'approvisionner chez les Occidentaux. Hein. L'autre fois, il y avait une manifestation dans un port français au Havre parce qu'il y avait livraison d'armes. Donc, pour les Wahhabites, pour tuer des musulmans au Yémen. Donc, j'insiste, c'est la force des musulmans, c'est connaître la religion. Parce que Allah dit dans le Coran, la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Ces gens-là, tu peux rien contre eux, ils ont beaucoup de force. Mais qu'est-ce que tu peux maîtriser, te protéger toi-même contre leur poison? Comme cette histoire très très importante dans le Coran, Dieu cite les histoires pour tirer des leçons. Quand Pharaon, il a ramené les magiciens, et contre Moussa, ils ont vu que Moussa, il a la vérité, que c'était un miracle, ce n'est pas de la magie. Le bâton qui s'est transformé en vrai serpent qui a mangé leurs cordes. Ils sont convertis à l'islam. Et Pharaon, il les a menacés de mort. Ils lui ont dit, mais ton châtiment, c'est passager. Mais le châtiment de celui qui meurt mécréant, c'est sans fin. Donc ils ont gagné contre Pharaon avec sa force, mais ils ont gagné. Ils ont été victorieux. Ils sont morts martyrs. Il n'a pas pu enlever la foi de leur cœur. Il les a tués, mais c'est, comme lui ont dit, c'est une douleur passagère. N'importe quelle douleur de cette vie, c'est passager. Et après, ils ont la félicité qui ne s'arrête jamais, éternelle, qui ne s'arrête jamais, jamais. Donc c'est cet exemple qu'il faut suivre, dans le sens, tu t'attaches à la croyance, tu enseignes la croyance, tu apprends, et t'es victorieux. Allah dit dans le Coran, وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Donc, c'est-à-dire, ceux qui suivent, ils sont au-dessus des mécréants jusqu'au jour dernier. Dans tous les cas, celui qui a la vérité, il est au-dessus. Parce que c'est lui qui sera gagnant. Parce que n'importe quoi qu'il fait, les mécréants dans cette vie, c'est passager. Pharaon, il est resté 500 ans. Qui reste maintenant 500 ans? Il n'a rien emmené. Donc la force du musulman de suivre la vérité, la croyance, pour ne pas tomber dans le piège, donc de ses égarés. Quant à sa parole, Ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Le sens du verset que Allah manifestera aux esclaves par les épreuves qui d'entre eux font preuve d'effort et de patience ou non. Le verset ne signifie pas que Allah saura qui sont les mujahideen après les avoir ignorés, en les éprouvant et en les testant. Ceci est impossible s'agissant de Allah Ta'ala. Allah sait toute chose avant qu'elle n'arrive. Sa science ne change pas. Celui qui dit que Allah s'acquiert une nouvelle connaissance devient non-croyant. Donc ici, bien sûr, Dieu sait tout. C'est déjà, on dit le maktoum dans la table préservée. Avant que la table préservée, Dieu sait, avant que le monde existe, ce que tu vas faire, qu'est-ce qui va avoir lieu, et qu'il y aura ceci, qu'il y aura l'informatique, qu'il y aura nouvelles technologies, et qu'il y aura ces problèmes, et ces guerres, etc., etc. Dieu sait tout, avant que le monde existe. Car Allah nous dit dans le Coran, donc un verset vraiment très important, il dit « Ala ya'lamu ma khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir ». Comment il ne sait pas ce qu'il crée? Chaque instant est créé par Dieu. Le monde ne peut pas se passer de Dieu un instant. Donc c'est impossible que Dieu ne sait pas ce qu'il crée, car chaque instant est voulu et créé par Dieu. Tout ce qui arrive, nos paroles,
nos pensées, les effets, la chaleur, le soleil, les mouvements des animaux, des humains, des anges, des djinns, un grain de poussière ne bouge tout cela que par la volonté de Dieu. لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. Un grain de poussière ne bouge que par la volonté de Dieu. Donc tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu, qui l'a créé. Donc qu'est-ce que ça veut dire ces versets-là? C'est des figures de style pour montrer, donc pour montrer, c'est-à-dire ici Dieu vous éprouve, ou d'autres versets dans ce sens, pour manifester aux gens qui obéissant et qui ne l'est pas, et pour manifester donc aux anges. Mais lui, Dieu, il sait tout, il n'apprend rien, il ne change pas. Il sait toute chose avant qu'elle n'arrive. Donc on dit, cette vie est un test pour nous. Pour manifester, on va être obéissant ou non. Mais Dieu, il sait. Il sait toute chose avant qu'elle n'arrive. Donc c'est pour cela, le Coran, Dieu a éprouvé les gens. Allah Ta'ala dit, « Yahdi bihi kathira wa yudhillu bihi kathira ». C'est-à-dire, certains ils sont guidés en lisant le Coran, certains ils sont égarés. Donc c'est important donc, de faire attention, de suivre les règles de la religion. Donc Dieu a éprouvé. Comme dans la nourriture, Dieu, s'il voulait, il aurait créé que des nourritures licites. Dieu a créé des nourritures licites et des nourritures illicites. Parce qu'il y a des gens... Ces gens égarés te disent, mais pourquoi Dieu a fait ces versets-là pour nous égarer? Il y en a, ils ont dit ça. Mais voilà la réponse. Le prophète dit, le Coran est une preuve ou pour toi ou contre toi. Dieu a éprouvé les gens par des versets qui sont pas explicites. Comme ça, celui qui fait l'effort, a une grande récompense, qui suit les règles de la religion. Donc, il a une récompense. Et Dieu égare par sa justice. Il guide par sa grâce. Il n'est pas obligé d'accorder la guider. Et il n'est pas obligé d'égarer. Il égare qui veut et guide qui veut. Donc, et la parole de Allah Ta'ala, Allahu nuru samawati wal ard. Ici, nur, parmi les noms de Dieu, c'est-à-dire, il guide les habitants des cieux et les habitants croyants de la terre vers la lumière de la foi. Allah n'est pas une lumière dans le sens qui est contraire de l'obscurité, car il est celui qui crée la lumière. Il a dit Ta'ala dans Surat Al-An'am, wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Ce qui signifie il créa les obscurités et la lumière. Dès lors, comment serait-il possible qu'il soit une lumière comme ses créatures? Allah est absolument exempté de cela. Donc il est donc interdit de croire qu'Allah aurait une couleur ou une forme. Donc nour, ça veut dire il guide vers la lumière de la foi. C'est ça que ça veut dire. Parce que la lumière, c'est un corps que Dieu a créé, c'est les corps impalpables. Dieu a créé les corps impalpables, l'air, l'obscurité, la lumière, les âmes, les anges, et des corps palpables comme les pierres, les plantes, les humains. Et il a créé des caractéristiques pour ces corps-là. Mouvement, immobilité, couleur, froideur, chaleur, etc. Donc, explication du hadith, Inna Allah Jamilun yuhibbul jamal. Le hadith, Inna Allah Jamilun yuhibbul jamal, veut dire que Dieu a des attributs de perfection. Il agrée la bienfaisance. Ici, il ne veut pas dire que Dieu, il a attribué un bel aspect, okay, qu'il agrée le bel aspect. Non. Ce qui compte selon le jugement de Dieu, c'est la beauté des actes. Ça veut dire quoi la beauté des actes? Qu'ils soient conformes à la loi de Dieu. Et le plus important des actes, comme il a dit le prophète, أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. La meilleure des œuvres est la foi en Allah et en son messager. Ça, c'est le plus important. Et après, les cinq prières, les actes de bien, ça fait gagner des hasanettes après la foi. Et sans la foi, il y a zéro récompense. مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ
fi yawmin 'asif, c'est-à-dire les œuvres de ceux qui ont mécru sont-elles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. Donc voilà, sans cela, sans la, à la foi, il n'y a pas de récompense. Donc, on finit quand même avec ce hadith, il est très important. On l'a cité brièvement, mais comme ça, ça, l'information est plus ancrée, les détails, parce qu'il y a une réponse d'un grand savant là-dedans. Donc, on va finir avec ça. Quant au hadith, nuzul rapporté dans le hadith, yanzilu rabbuna kulla laylatin ila samaa'i dunya. C'est la même chose, c'est la même figure de style qu'on a vu tout à l'heure. C'est majaz ou hadf, comme maridtu, on l'a vu. Cela veut dire que c'est un ange qui descend, c'est l'ange de Dieu qui descend. Sous ordre de Dieu, pour transmettre de sa part, ce qui signifie, qui m'invoque, je l'exauce, qui me demande pardon, je lui pardonne, qui me demande, je lui accorde. L'ange reste le dernier tiers de la nuit dans le ciel de ce bas monde jusqu'à l'aube. Donc quand on se réveille, par exemple, une heure avant l'aube, dernier tiers, comme on va voir, c'est donc diviser la nuit en trois. Premier tiers, depuis coucher jusqu'à l'aube. Premier tiers, deuxième, troisième, et les doigts sont, on espère qu'ils soient fortes, donc et, on espère qu'ils soient exaucés. Donc il a été rapporté de l'imam Malik qu'il a interprété le hadith par la descente de la miséricorde de Allah. Donc certains ils ont interprété l'ange de Dieu, d'autres la miséricorde de Dieu, de l'ordre de Dieu, de son ordre ou de ses anges, comme on dit dans la langue, le sultan a fait telle chose si ses sujets font sur son ordre. Donc ça, cette explication, c'est dans le livre Sharh al-Zurqani sur le Muwatta de l'imam Malik. Quant à celui qui dit Yanzilu en gardant le terme en arabe sans comment, ceci est vrai. Quand on garde le terme en arabe, on dit selon ce qui est digne de Dieu, comme Istawa selon ce qui est digne de Dieu. Car lorsqu'il a dit sans comment, il a nié le mouvement et le déplacement au sujet de Dieu. Il utilise cela des fois les savants. Il résume, il dit sans comment pour Bila Kaif. Pour dire attention, c'est pas la forme, le contact, le déplacement, c'est impossible. Donc voyez, on va voir une belle explication le président des juges Shafi'i de son époque en Égypte, Badreddin ibn Jamaa. Il donne une belle explication. Donc ces interprétations correctes ont été rapportées par des grands savants comme An-Nawawi dans son commentaire de Sahih Muslim. Donc ainsi que Ibn Hajar al-Asqalani dans son livre Fathul Bari, commentaire de Sahih al-Bukhari. Donc tout cela, on les a vus dans ces fameux livres. Il y a d'autres versions. Donc vous savez, il y a plusieurs versions pour un seul hadith. Et il y a une règle chez les savants, on a une version peut interpréter une autre. C'est la meilleure manière, interpréter une version par une autre version du même hadith. Comme il dit Hafez Zainuddin al-Iraqi dans un livre sur la science du hadith. Il dit wa khayru ma fassartahu bil walidi, c'est-à-dire une version va donc expliquer une autre version. De plus, la version du hadith rapportée par An-Nasa'i qui est sahih confirme que c'est un ange qui descend sous l'ordre de Dieu. Il y a une autre version du hadith, inna Allah yumhilu hatta yamdhiya shatr al-layl al-awwal fa ya'muru munadiyan fa yunadi. Ce qui signifie qu'on s'écoule la première moitié de la nuit, Allah ordonne à un ange qui appelle. Donc cette version explique cette autre version. C'est un ange qui est ordonné. Donc ça c'est la science du hadith. C'est pas lire des livres à droite et à gauche et dire hadith sahih hasan tout seul comme ça. C'est par chaîne de transmission. Il y a une autre version aussi. Avec une certaine nuance. Par ailleurs, certains de ceux qui ont rapporté les hadiths de Al-Bukhari ont transmis le hadith avec la dhamma sur le ya, c'est-à-dire yunzilu. C'est-à-dire, c'est une forme en arabe, c'est faire. Yuf'ilu, de la forme grammaticale de yuf'ilu. C'est-à-dire, yunzilu, c'est pas pareil que yanzilu. Donc, une haraka, une voyelle peut changer le sens en arabe. Yunzilu en arabe c'est veut dire clairement il fait descendre, c'est-à-dire qu'il ordonne à un ange de descendre. Ici c'est même plus un sens figuré,
C'est le sens clair.
Inna Allah yunzilu kulla laylatin ila as-sama' ad-dunya. C'est-à-dire, Allah fait descendre un ange chaque nuit jusqu'au ciel du bas-monde.
Voilà. Donc là, une autre explication. Donc, pour montrer l'héritage, cette culture musulmane. Alors, le grand savant Badruddin ibn Jama'a, donc 728 de l'Hégire, explique le sens du hadith, hadith Nuzul. Donc, le président du juge-chef et en Égypte, à son époque, Badruddin ibn Jama'a, décédé en 728 de l'Hégire, a dit dans son livre « Idahu al-dalil fi qat'i hujaji ahli al-ta'til ». Donc déjà le livre, c'est important, le titre dit « L'éclaircissement de la preuve pour réfuter les faux arguments des gens qui renient les attributs de Dieu ou ce qui est digne de Dieu ». Parce que il faut savoir, chez les savants de l'islam, mais selon la règle claire, considérer Dieu est un corps, c'est, ça revient à renier Dieu. C'est ça qui est grave. Comme un compagnon l'a dit, donc d'autres savants et des savants, ça revient à renier Dieu. Dire que Dieu est un corps, ça veut dire renier Dieu, ça veut dire croire une chose imaginaire. C'est-à-dire renier le vrai créateur qui n'est pas un corps. Et ça, c'est la croyance de tous les autres religions, autres que l'islam. On l'a dit, c'est une preuve simple, l'islam est la seule vraie religion, car c'est la seule religion qui dit que Dieu n'a pas un corps. Toutes les autres religions, vache, statue, un homme, vieillard qui habiterait le ciel, lumière, le soleil, la lune, le feu, un humain, un prophète, donc ils adorent des corps imaginaire qui existe. Ceux qui adorent des statues, vaches, statues, des rats, etc., serpents, ou un vieillard qui habiterait le ciel, ou une lumière, c'est un corps, un volume. Tout ce qui a une forme, une quantité, donc un corps, c'est une forme, une quantité, une localisation, et celui qui est ainsi, forcément, c'est une créature. L'islam est la seule religion qui dit que Dieu n'a pas de forme, n'a pas de quantité, il existe avant l'espace de temps, on ne peut pas atteindre sa réalité, il n'a pas de début, n'a pas de fin. Juste avec cette preuve, l'islam est la seule vraie religion. La seule religion conforme à la raison. Donc dans les débats, juste on cite ça, ça clôt le débat. Donc avec n'importe quelle religion, donc l'islam est la seule vraie religion conforme à la raison. Donc sans compter que l'islam c'est la seule religion qui reconnaît tous les prophètes, etc. etc. Donc voilà. Donc le président, donc on l'a dit, des juges, etc. Donc sache qu'il n'est pas permis de donner le sens du déplacement de haut en bas à Dieu dans le hadith du Nuzul. Et ceci pour plusieurs raisons. Donc ça c'est la traduction de ce qu'il a dit, bien sûr, lui disait en arabe. La première, il dit, regardez comment ils sont intelligents les savants. Lui c'était le président des juges. On dit « Qadi al-Qudat ». Donc il dit la première, la descente est un attribut des corps et de ce qui entre en existence. Elle requiert trois choses. Un espace de déplacement, un espace qui est quitté, un espace qui est atteint. Et tout cela est impossible s'agissant de Allah. Donc, vous voyez le niveau de réflexion. Le déplacement, il dit, ça requiert trois choses. Un espace de déplacement, un espace qui est quitté, un espace qui est atteint. Et tout cela est impossible s'agissant de Allah. La seconde, il dit, si la descente était une réalité pour Allah, il se renouvellerait pour lui chaque jour et chaque nuit beaucoup de mouvements qui l'occuperaient entièrement toute la nuit, de même que beaucoup de déplacements. En effet, le tiers de la nuit se renouvelle pour les gens de la terre au fur et à mesure à chaque moment. Cela impliquerait son déplacement dans le ciel du bas monde, nuit et jour, d'un peuple à l'autre. Son retour vers le trône à chaque instant, selon leur dire, et sa descente à chaque instant dans le ciel du bas monde, et cela quelqu'un doué d'un minimum d'intelligence et d'entendement ne le dit pas. Donc il dit, donc c'est du n'importe quoi ce qu'ils disent, soi-disant pour eux, Dieu c'est un ascenseur, il fait que monter et descendre, parce que il est clair que si il y a le coucher du soleil dans votre lieu,
il sera quelques instants après dans un autre lieu, quelques instants après dans un autre lieu, ainsi de suite, ainsi de suite. Le tiers de la nuit dans un lieu, ben il sera après, juste après dans un autre lieu, juste après dans un autre lieu, ainsi de suite, continuellement. Donc selon eux, Dieu fait que monter et descendre. Ça, c'est l'aberration qu'il veut montrer ici. C'est du n'importe quoi. Et la troisième, là aussi, il montre une autre aberration. Il dit, à celui qui dit qu'Allah est sur le trône et qui le remplit, comment le ciel du bas monde pourrait le contenir alors que ce ciel est par rapport au trône comme un anneau dans une terre déserte? Selon vous dire, il ne resterait que deux solutions. Soit l'agrandissement du ciel du bas monde à chaque moment pour le contenir, soit la réduction de l'être glorifié, qui est absolument exempt de cela, jusqu'à rentrer dedans. Quant à nous, les gens de Ahl Sunna, nous sommes formels à nier les deux cas. Fin de citation. Vous voyez l'intelligence de ces gens-là? Comment ils répliquent? Il dit alors, troisième aberration, c'est, il y a un hadith très connu, sahih, confirmé, que les sept cieux, avec leur grandeur, devant Al-Kursi, qui est une autre créature que le trône, c'est un anneau dans le désert, comme un anneau dans le désert. Et Al-Kursi lui-même, devant le trône, par rapport au trône, c'est comme un anneau dans un désert. Vous voyez? Donc le rapport de grandeur immense, la supériorité de grandeur entre les cieux et le trône, c'est très très immense. Donc pour eux, soi-disant, déjà ils disent, selon eux, Dieu fait que monter et descendre, et en plus, selon leur dire, Dieu, il faut s'agrandir, s'agrandir, rétrécir continuellement. Donc ça montre leur aberration, leur croyance, et c'est pour cela, eux, première chose qu'ils disent à leurs adeptes, ils disent non, il ne faut pas raisonner, il faut pas utiliser ta raison. Et c'est pour cela il est important de connaître les versets qui montrent que la raison est prise en compte. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيَ. Ils ont dit, si nous avions écouté ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. Donc voilà, et donc l'importance de suivre les règles de la raison, sinon la personne tombe dans ces contradictions et aberrations graves que disent ces gens-là. Donc ça, c'est l'explication d'un grand savant. Donc voilà, sinon on l'a dit, il est recommandé que la personne accomplisse dans le dernier tiers de la nuit beaucoup d'invocations et des prières surrogatoires. Donc ça, on l'a dit. Donc Allah n'a pas besoin des créatures, il n'a nul besoin d'autrui de toute éternité alors que toutes les créatures ont besoin de lui. Allah n'a pas besoin de l'endroit, il n'est pas localisé dans un endroit ni dans une direction, car il existe Ta'ala de toute éternité avant l'endroit, sans endroit, et c'est lui qui a créé l'endroit, il n'a donc nul besoin de l'endroit. Donc l'objectif de l'ascension, bien sûr, c'est pour honorer le prophète, alayhi salam, pour qu'il voit les choses étonnantes du monde céleste. Ça ne veut pas dire rencontrer Dieu dans un endroit. C'est pour qu'il voit les choses étonnantes du monde céleste. Et quand on lève les mains vers le ciel, c'est une direction de l'invocation. Donc c'est une direction, comme la Kaaba, c'est une direction. Et donc Dieu, comme il a dit l'imam Ali ibn Abi Talib, que Allah l'honore, a dit, Dieu existe de toute éternité, alors qu'aucun endroit n'est de toute éternité, il est maintenant tel qu'il est de toute éternité, c'est-à-dire sans endroit. Parce que le prophète, alayhi wasalam, il a dit, كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ. Dieu existe de toute éternité, et rien d'autre que lui n'est de toute éternité. C'est-à-dire, seul Dieu n'a pas de début, et l'endroit, l'espace, le temps sont créés par Dieu. Donc voilà, les explications. On continuera, incha'Allah, la prochaine fois, on verra d'autres choses, on essayera d'expliquer donc d'autres versets, et on verra même certaines règles de... Donc on aura l'occasion, Inch'Allah, dans la suite des cours, on trouvera même un créneau pour sur l'explication de certains exégèses de certaines sourates, ou des explications de la langue arabe aussi pour aider à comprendre. Donc j'insiste, je conseille de la personne de réviser cela. Et aussi, dans la semaine, la personne, il est important de maîtriser d'autres sujets dans la religion, comme sur la prière. Donc vous avez, donc il y a un cours sur les règles de prononciation, tajwid. Donc c'est parce que la Fatiha, donc c'est pourquoi je dis ça, parce que la Fatiha elle est obligatoire. La seule sourate obligatoire dans le Coran, c'est la Fatiha. Il faut bien la réciter. Donc c'est pas une obligation de maîtriser l'interprétation, mais il y a l'interprétation, on la fera, vous pouvez la trouver. Donc Fatiha, vous écrivez, donc il y a l'exégèse ici, et donc il y a sur le tajwid pour bien prononcer. Si la personne connaît les enseignants de confiance, elle se fait réciter. Vous pouvez envoyer donc la récitation sur WhatsApp, Telegram, pour vous aider à prononcer. Donc il y a l'exégèse aussi ici de Sourate al-Fatiha, il y a les piliers de la prière. Donc on essaiera de faire les piliers, ils sont importants, parce que c'est la deuxième meilleure chose après la foi, c'est les cinq prières, ils ont des conditions. Donc voilà, si vous avez besoin de questions, vous pouvez envoyer, comme j'ai dit, sur le site, sur Telegram, sur... Donc il y a le lien ici, et sur le mail, et vous aurez... Vous aurez le télégramme. Bon, il y a le télégramme directement, il y a le lien ici, parce que Telegram il propose un lien direct pour dans la conversation arriver directement, et sinon il y a le mail aussi. Voilà, j'espère que c'est clair. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit man yuridillahu bi khayran yufaqihu fi ddin, c'est-à-dire celui pour qui Allah veut le bien, il lui facilite donc l'apprentissage de la science de la religion. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa khatamin nabiyyin. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa alaykoum salam tout le monde, barakallahu fikoum. Donc il y a le lien, hein. Il est donc de toute façon le lien qui est demandé, donc il est là. Donc il est dans le site, hein. Vous pouvez sur islam.ms. Donc il y est le lien. Donc bienvenue à vous et partagez, inshallah. Il y aura le cours audio sur l'application, il arrive. Et je mettrai le lien. Donc du cours audio aussi, ça facilite quand on a le cours audio aussi, parce qu'on peut le télécharger, l'écouter plusieurs fois hors ligne. Voilà. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.